Vous écoutez, on lit pour vous.
14 internistes sonnent l'alarme au sujet du dossier santé numérique. Un texte d'Isabelle Porter et Marie-Michèle Sioui, paru le 20 avril 2026 dans Le Devoir. 14 internistes de Drummondville sonnent l'alarme à propos du dossier santé numérique DSN. Ils jugent que la transition met à risque leur capacité à offrir des soins sécuritaires et demandent que le report du projet soit envisagé. Les conditions minimales ne nous semblent pas réunies à Drummondville pour permettre un déploiement sécuritaire du DSN. Dans son état actuel, le projet soulève des inquiétudes sérieuses quant à la sécurité du déploiement, à la continuité des soins et à la capacité réelle de l'établissement à répondre aux besoins de la population, ont écrit les 14 médecins dans une lettre obtenue par Le Devoir. Datée du 9 avril 2026, la missive était adressée à la PDG du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, CIUS-MCQ, Nathalie Petitclerc. Joint par Le Devoir, le CIUS a répondu qu'il était à une étape déterminante de l'actualisation du dossier santé numérique qui représente une phase exigeante pour les équipes. Les préoccupations exprimées à l'égard de l'accès aux services et de la fluidité des trajectoires de soins sont légitimes et sont prises au sérieux, a ajouté le Dr Olivier Roy, directeur médical des services professionnels du CIUS-MCQ. L'un des signataires s'est entretenu avec Le Devoir à sa sortie d'une journée de formation qui lui a donné un mal de tête. « Je prie pour que ce soit repoussé. J'ai l'impression qu'on s'en va vers un précipice », a lancé le Dr Daniel Vien. Dans les formations, il dit constater à quel point le virage demande des changements. « C'est vraiment d'une complexité phénoménale », a-t-il dit. Ce qu'un médecin faisait assez rapidement passera désormais par de nombreux clics, a illustré l'interniste. Plus ça approche, plus on est inquiet, a-t-il laissé tomber. Au CIUS-MCQ, 27 % des médecins n'ont pas terminé les formations requises pour le DSN, en date du 20 avril 2026. Délais et préjudices. Dans leur lettre, les 14 signataires, sur un total de 16 internistes à Drummondville, écrivent qu'il est raisonnable d'anticiper un ralentissement marqué des consultations, des examens, des interventions et de plusieurs processus cliniques en raison du déploiement du DSN prévu le 9 mai 2026. Ils craignent que les reports entraîne un préjudice potentiel pour les patients, en manque de plan B pour obtenir des soins. À cet égard, le Dr Roy répond au nom du CIUS que la réduction temporaire de certaines activités s'inscrit comme une mesure essentielle afin d'assurer une transition sécuritaire vers le DSN. Elle vise, dit-il, à limiter les risques pour les patients à faciliter la prise en main du dossier numérique en contexte réel et à éviter une surcharge pouvant nuire à son utilisation optimale. D'un point de vue pratique, les auteurs de la lettre soulignent, par exemple, que chaque poste informatique à l'urgence ne compte qu'un seul écran d'ordinateur. Pourtant, l'utilisation efficace et sécuritaire du DSN nécessiterait minimalement deux écrans, illustrent les médecins. Ils demandent donc au CIUS de réévaluer la pertinence de maintenir l'échéancier actuel. des super-utilisateurs démissionnent. Le DSN est un nouveau système informatique devant regrouper, en tout temps, les dossiers complets des patients. Il doit d'abord être déployé en Mauricie, centre du Québec, et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, CIUSSS-NIM. Son lancement a déjà été reporté puisque le projet devait, au départ, être lancé en novembre 2025. Au cours de la fin de semaine, le député libéral, Monsef Deraji, a publié des témoignages anonymes de médecins convaincus que leurs équipes n'étaient pas prêtes au déploiement du nouveau système. L'élu a aussi avancé que certains de ses super-utilisateurs, 1200 formateurs maison, censés aider leurs collègues avec l'outil, auraient récemment quitté ce rôle pour revenir à leur fonction clinique. La PDG du CIUSSS-NIM, Adélaïde Demelo, l'a reconnu dans son échange avec Le Devoir. Elle a cependant refusé de dire combien de super-utilisateurs ont ainsi démissionné. Elle a précisé que ceux-ci ont été remplacés et qu'il n'y a pas de vague de départ. Madame Demelo a aussi réfuté les informations de M. Deraji, selon qui les médecins craignent que la combinaison d'un système complexe, d'une formation insuffisante et d'un déploiement rapide augmente le risque d'erreurs médicales, de retard dans les soins et de complications. Elle a dit qu'elle ne voyait pas comment l'outil peut provoquer une erreur médicale. C'est très sécuritaire, ça va faciliter le travail des cliniciens, a-t-elle assuré. Le PQ demande des explications au Parlement. La sortie du député Deraji s'ajoute à celle du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, qui avait déclaré à Radio-Canada le 10 avril 2026 que Santé Québec n'était pas prête à déployer le projet pilote. Le Parti québécois a joint sa voix au concert en demandant à Santé Québec de venir rendre des comptes au Parlement dans le dossier. Pour se défendre, la Société d'État a transmis aux médias une lettre signée par des représentants des médecins, des infirmières et des travailleurs des services sociaux du CIUSSS-NIM. Les équipes ne sont pas laissées à elles-mêmes, y plaident des représentants des médecins, des infirmières et des employés des services sociaux dans une lettre ouverte diffusée dimanche. Réduire cette transformation à ses défis immédiats, c'est passer à côté de l'essentiel, font-ils valoir. C'était 14 internistes sonnent l'alarme au sujet du dossier santé numérique. Un texte d'Isabelle Porter et Marie-Michelle Sioui, paru le 20 avril 2026 dans Le Devoir.
Quand le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'embrasait. Un texte de François-Olivier Doré, paru le 25 avril 2026 dans Le Devoir. François-Olivier Doré, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi, raconte comment l'incendie de 1870 a contribué à une prise de conscience accrue sur la gestion de la forêt publique. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pays de Maria Chapdelaine, donne l'illusion d'un espace à respiration lente qui se prolonge sans heurts. Rien ou presque ne laisse deviner qu'il fut en mai 1870 le théâtre d'une catastrophe marquante de l'histoire du Québec. En l'espace de quelques heures, Un vaste incendie balaye la quasi-totalité de la région, provoquant une césure brutale dans son histoire. Ce que l'on a appelé le Grand Feu de 1870 fut un événement total, à la fois matériel, social et symbolique, dont l'écho subsiste encore dans les mémoires familiales sans jamais avoir trouvé pleine reconnaissance dans la mémoire collective québécoise. Chronique d'une tragédie. Le Québec du 19e siècle a l'habitude des grands incendies. La réglementation quasi inexistante sur la gestion des forêts et l'essor de l'industrie accroissent la vulnérabilité des villes et des régions ressources régulièrement en proie aux flammes. Un rapport du ministère des Terres et des Forêts de 1909 est sans équivoque. La prolifération des incendies est surtout d'origine humaine. Étincelles de locomotives, feux de camp négligés, brûlis agricoles mal maîtrisés, autant de pratiques alors liées à l'exploitation et à la colonisation du territoire. Une Inoue de Mashtoyach, Marie-Louise Bacon, née en 1887, rapportait à la Société historique du Saguenay en 1971 « Les Blancs ne sont pas prudents du tout pour le feu. Depuis que les Canadiens vont partout dans les bois, ça brûle, et ça brûle partout, et quand il n'y a plus de bois, il n'y a plus de bêtes non plus. » En 1869, le gouvernement québécois crée une commission spéciale sur les incendies de forêt. Il adopte en février 1870 une loi visant à mieux protéger les forêts qui encadre notamment les feux d'abatis, ces amoncellements de bois des activités de défrichage essentielles à la fertilisation des sols. Ainsi, le gouvernement espère limiter les pertes financières croissantes pour l'industrie forestière comme pour l'État, qui tire profit des concessions. Pour les colons, le feu est une menace constante, certes, mais aussi un outil indispensable à l'entretien des pâturages. Triste ironie du sort, l'été de 1870 est l'objet d'incendies forestiers majeurs. Celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean ressort du lot à la fois par sa soudaineté et son ampleur. Le 19 mai en avant-midi à Saint-Félicien, petite colonie encore émergente à l'ouest du Lac-Saint-Jean, un feu d'abatis allumé par des colons s'emballe rapidement, attisé par un printemps hâtif et sec et par de forts vents d'ouest. Certains témoignages évoquent aussi un orage de soufre, sans doute du pollen fragmenté, qui aurait accéléré la propagation. D'autres hypothèses suggèrent plutôt la convergence de plusieurs foyers simultanés qui auraient été issus d'autres brûlis dans la région et qui, agrégés par le vent, auraient formé une véritable tempête de feu faite de nuages incandescents. En l'espace d'une seule journée, le feu brûle tout le sud et une partie du nord de la région, environ 170 km, depuis Saint-Félicien jusqu'à la baie, rasant des villages entiers, en particulier à l'ouest et au sud du lac Saint-Jean, comme Saint-Prime, Roberval, Chambord, Saint-Jérôme. Saint-Gédéon et Alma sont relativement épargnés, mais le feu poursuit sa course et touche sévèrement Héberville, Jonquière, La Terrière, Saint-Fulgence, Saint-Alphonse, Saint-Alexis de Grande-Baie et cause de légères pertes à Chicoutimi et à Sainte-Anne. Plusieurs témoignages atteste la puissance et la rapidité du brasier. Les familles sont surprises par les flammes alors qu'elles sont à table, s'apprêtant à manger. La plupart ont tout juste le temps de fuir, de se jeter dans les ruisseaux ou des caveaux. D'autres se réfugient sur des billots de bois dans l'eau ou encore, désespérés, arrosent leur maison ou se mettent la tête dans des chaudières pour respirer. Enquête. Rapidement saisi du dossier, le gouvernement québécois enverra quelques jours plus tard un commissaire, Pierre-Claude Boucher de la Bruère, pour apporter des effets aux incendies, mais aussi faire rapport sur l'étendue des dégâts et des pertes. J'ai trouvé partout la désolation et la ruine la plus complète. J'ai rencontré sur le chemin des familles éplorées, à demi vêtues, attendant dans la plus grande anxiété, des secours afin de s'empêcher de mourir de faim, peut-on lire dans le rapport. Le choc lui inspire aussi cette perspicace remarque. Ce désastre restera certainement un point de repère dans l'histoire de la région. On dira « avant le grand feu »,« après le grand feu ». On s'étonne qu'une telle catastrophe n'ait pas causé plus de 7 décès. Mais les blessés par brûlure sont nombreux et les décès d'animaux, source vitale pour les colons, se comptent par centaines. Plus de 555 familles, près du tiers de la population régionale, sont ruinées et 146 foyers, incluant les étables et les résidences, sont complètement détruits. À cela s'ajoutent au moins 4 moulins, 44 ponts, un vaste couvert forestier et des milliers de billots de pin coupé appartenant à la compagnie Price. Un paysage de ruines. La tragédie attise une solidarité à l'échelle régionale. Nombre de sinistrés sont accueillis par leurs voisins et soutenus par une économie locale faite de liens d'entraide et de dons. Devant l'ampleur des dégâts, les élites régionales sollicitent l'aide publique par l'entremise de la presse, ce qui mène à une importante collection de fonds pan-québécoises. Plus de 125 000 $ sont réunis par divers comités et organisations caritatives, tandis que les gouvernements québécois et ontariens apportent un soutien financier et matériel. Les entrepreneurs forestiers Price participent à l'effort de secours en fournissant du bois et une aide financière et matérielle aux paroisses touchées. Sur le plan politique, l'incendie du Saguenay-Lac-Saint-Jean contribue à une prise de conscience accrue sur la gestion de la forêt publique et la modernisation des dispositifs techniques de lutte contre les feux. Vous écoutez « Quand le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'embrasait », un texte de François-Olivier Doré, paru le 25 avril 2026 dans Le Devoir. Ce souvenir, pour l'historien clerc Victor Tremblay, auteur de la première histoire régionale du Saguenay, paru dans l'entre-deux-guerres, le grand feu de 1870 aura été un désastre sauveur qui détermina un essor magnifique. Essor signalé par la reprise en force de l'agriculture dès 1871, l'arrivée de la grande industrie et l'accélération de la colonisation du territoire, le feu ayant ouvert à l'exploitation des terres jusque-là inaccessibles. Certains disent même que le feu serait à l'origine de la prolifération du célèbre bleuet du lac Saint-Jean. Une idée qui divise encore les experts, mais cette resignification du drame en sursaut héroïque masque l'indigence extrême dans laquelle cette tragédie a plongé les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le fléchissement temporaire du peuplement qui en a résulté. Surtout, elle s'inscrit dans la longue entreprise de mythification du grand feu, devenue une sorte de repère tragico-identitaire autour duquel la communauté saguenéenne s'est reconnue et a forgé une part de son sentiment d'appartenance dès la fin du 19e siècle. En cela, la construction de la mémoire du grand feu est peut-être aussi étonnante que la factualité de son histoire. Au lac Saint-Jean, vous trouverez encore des résidents qui vous diront fièrement avoir sur leur terre une vieille souche brûlée, datant de 1870. Cette mémoire, transmise dans les familles, a trouvé ancrage dans des monuments commémoratifs. Du vitrail du Grand Feu à l'église Sainte-Anne de Chicoutimi-Nord, 1921, au calvaire de Chambord, en hommage aux victimes de l'incendie, 1946. Le souvenir du sinistre s'est fixé avant tout dans une lecture religieuse portée par un haut clergé soucieux de consolider son autorité régionale. Longtemps ont affleuré des récits de curés héros qui, par la prière et les incantations, avait réussi à détourner les flammes et à sauver des villages entiers. D'autres ont parlé du grand feu comme d'un châtiment divin, envoyé pour punir les désordres et les relâchements moraux dans les chantiers forestiers. La mémoire de la tragédie s'est également prolongée dans de vastes mises en scène commémoratives du pageant historique de 1938, point culminant du centenaire de la colonisation du Saguenay, à la fabuleuse histoire d'un royaume créé en 1988 et encore présenté chaque été, où l'incendie de 1870 occupe une place fondatrice dans le récit régional. Elle apparaît enfin dans la toponymie, plus discrètement. Le lac Brûlé, près de Chambord, évoquerait le sinistre, refuge ultime de familles fuyant les flammes, tandis que certains lacs des Pointes Brûlées en conserveraient une trace plus incertaine. Rares et ambiguës, ces toponymes témoignent d'une mémoire diffuse, partiellement enfouie dans le paysage. Le grand feu est nous. Malgré l'ampleur et la fulgurance du grand feu, abondamment relayée par les médias de l'époque, sa mémoire n'est jamais sortie de sa région, à l'image de nos autres tragédies incendiaires. Montréal en 1852, la péninsule gaspésienne en 1867, le sud du Saint-Laurent en 1895, Hull en 1900, Trois-Rivières en 1908, entre autres. Il y a ici une absence révélatrice, qui tient sans doute à la place marginale qu'occupent nos régions dans l'histoire nationale, mais aussi, peut-être, à une mémoire déficiente du territoire lui-même, dans cette diversité à la fois heureuse et tragique. Pierre Neveu ne manquait pas, à juste titre, de pointer le paradoxe de cet oubli du territoire pour un Canada français dont la tradition du sol fut longtemps un marqueur identitaire. C'est à cet angle mort que s'attaque la belle exposition Grand Feu, présentée jusqu'au 16 mai au musée L'Odyssée des bâtisseurs à Alma. Pour réaliser ce travail photographique et archivistique, les artistes Nicolas Lévesque et Sophie Gagnon-Bergeron ont sillonné la région à la recherche des traces visibles et invisibles laissées par l'incendie, cette épouvante inaugurale qui a hanté l'imaginaire intime de leur jeunesse. Je les cite. Aujourd'hui, lorsque les forêts brûlent, nous sentons-nous coupables, comme peut-être celles et ceux qui se sont établis ici en 1870? Ou avons-nous seulement peur? Car il devient de plus en plus plausible que nous connaissions un autre grand feu. À l'heure de l'emballement climatique, le grand feu réapparaît comme une mémoire active. Et si son souvenir nous appelait à renouer les fils rompus entre le temps des sociétés humaines et celui de la nature, en reconnaissant ce qui, dans leur histoire, les lie à un même destin. C'était « Quand le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'embrasait », un texte de François-Olivier Doré, paru le 25 avril 2026 dans « Le Devoir ».
Le rôle de l'infirmière dans le domaine des soins de plaies. Un texte de Julien Côté, stomothérapeute, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. L'infirmière peut réaliser un large spectre d'activités professionnelles à l'intérieur de son expertise clinique. Ainsi, l'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé de son patient. Dans le domaine des soins de plaies, une des activités qui est réservée aux infirmières est de déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et de prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent. Cette activité implique aussi que l'infirmière prodigue ou s'assure que sont prodigués les soins et les traitements qu'elle a elle-même déterminés. L'infirmière décide ainsi d'un plan de traitement qui peut avoir des visées curatives, des visées de maintien ou des visées palliatives pour une personne qui présente une ou plusieurs plaies ou altérations de la peau. Ce plan de traitement présente notamment les objectifs thérapeutiques, les soins et les traitements à appliquer, de même que le suivi clinique requis. Ces éléments du plan de traitement sont ajustés par l'infirmière selon l'évolution de l'état de santé de la personne, de la plaie ou l'altération de la peau. Référence, Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLARQ. Article 36. Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier, RLRQ, M-9, R12.001, article 2. Plus d'infos, www.oiiq.org/clinique/soins/plaies. C'était le rôle de l'infirmière dans le domaine des soins de plaies. Un texte de Julien Côté, stomothérapeute, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.